c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chute, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et l'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de votre émission de ce lundi 1er novembre, un jour férié, l'occasion est bien de pouvoir justement vous détendre en écoutant Chute, on écoute la télé aujourd'hui avec une très belle émission qu'on vous a concoctée. Deux coups de cœur ciné cette semaine. Le premier, il va nous rejoindre dans une poignée de secondes, Christian Carion, le réalisateur du film My Son, avec cette reprise du film Mon Garçon qu'il avait réalisé 4 ans plus tôt avec Guillaume Canet. Christian Carion va nous en parler dans un instant et sera notre invité exceptionnel. Deuxième coup de cœur ciné en fin d'émission, Fabrice Marouka et Clovis Cornillac vont venir nous rejoindre pour nous parler de la sortie du film Si on chantait. Là, on est dans une belle comédie qui va faire du bien. Ces deux films, c'est mercredi dans les salles et c'est nos coups de cœur ciné cette semaine. Et puis nos coups de cœur télé avec Il et Elle, programmé ce soir sur TF1. Andrea Furet sera notre invité exceptionnel pour en parler. Et puis on va fêter évidemment les 1 an de succès de la série Ici tout commence. La série débarquée il y a 1 an sur son antenne. Plus de 3 500 000 téléspectateurs sont en rendez-vous chaque soir pour suivre les aventures de nos apprentis cuisiniers. Et aujourd'hui, on va fêter cet anniversaire comme il se doit avec Agustine Galliana et Rebecca Benamour qui sont les interprètes de Lisandro et de Célia dans quelques instants. Voilà, Chute, on écoute la télé, c'est parti. On démarre tout de suite avec notre premier coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Coup de cœur ciné aujourd'hui en 7 Toussaint. Vous êtes gâtés puisque mercredi sortira le nouveau film de Christian Carion qui s'appelle My Son. Et il est justement avec nous, Christian, pour 7 Toussaint. Lui aussi courageux, il est avec nous pour un jour férié. Bonjour Christian.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Alors My Son, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'adaptation anglaise de Mon Garçon, qui était Guillaume Canet et Mélanie Laurent à la base. Pourquoi un remake déjà? Première question, Christian.
Eh ben, moi, j'avais envie de revivre cette expérience parce que elle est basée sur un principe particulier. L'acteur principal n'a pas le scénario. Il joue un personnage qui est absent, qui est tout le temps à l'étranger pour son boulot et il revient précipitamment parce que son gamin a disparu, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, j'ai demandé à McAvoy de ne pas lire le scénario. Je lui ai pas donné, du reste. De ne pas voir le film français aussi. Je lui ai dit, voilà, je te donne 4 pages. Voici ton nom, ton prénom, ton boulot. Qu'est-ce que tu as fait avant que le film ne démarre? Mais quand le film démarre, t'as plus rien. Et on regarde ce que tu vas faire devant la caméra. Tous les autres acteurs, eux, ont le scénario. Et on va te pousser dans la bonne direction, mais on va voir comment tu réagis à tout ça.
Le premier qui a vécu cette expérience, c'est Guillaume Canet. Donc du coup, pour Mon Garçon, en 2017. La particularité aussi, quand même aussi, c'est que c'est tourné dans l'ordre chronologique. Alors ça se fait plus aujourd'hui, hein. Tous les films sont transbordés, les séries. Est-ce que ça rajoute aussi de l'intensité sur le tournage, par exemple?
Justement, tout vient du fait que comme il n'a pas le scénario, on vit heure par heure, chronologiquement, effectivement, l'histoire, comme le film. Le temps de narration du film, c'est le temps de tournage. On a tourné en 8 jours parce qu'on ne fait qu'une prise. En tout cas, on essaye. Il n'y a pas de maquillage, coiffure. Toutes les lumières sont préparées dans les décors. Donc, on ne fait que tourner. On s'arrête pour dormir, en gros. Et on crée donc une tension, une intensité qui, j'espère, se retrouve à l'écran.
Alors moi, j'ai vraiment retrouvé l'univers parce que malgré tout, que ça soit une adaptation d'un film français, j'ai vraiment retrouvé l'univers anglo-saxon qu'on peut retrouver dans des séries comme Broadchurch, qui ont une intensité, une lumière, des décors vraiment très anglo-saxons, très particuliers. Vous avez vraiment réussi ce tour de force.
Ben, ça me touche. On voulait effectivement transposer l'histoire dans une autre culture aussi. On est dans le monde anglo-saxon là pour le coup. On est dans les Highlands en Écosse, un endroit dément. C'est des coins où il y a plus de cerfs au mètre carré que d'êtres humains. Enfin, c'est fou quoi. Et je pense que toute cette atmosphère, la pluie, la lumière, fait que on est dans un autre film que le film français. Les acteurs sont différents. On a modifié l'histoire aussi. Bref, c'est un remake, mais pour moi, c'est pas un remake, c'est une nouvelle version.
C'est un nouveau film, effectivement, avec un très beau casting. Alors, où c'est que vous avez trouvé James et Claire, justement? Comment vous avez choisi tous les deux?
Alors, moi, McAvoy, j'admire McAvoy depuis ses débuts. Je pense que c'est un des acteurs les plus talentueux de sa génération.
Vous avez rencontré sur votre film Joyeux Noël, d'ailleurs.
Alors, ouais, on s'était croisés déjà à l'époque, mais il n'était pas dispo. Mais le contact était bien passé. Il avait vu ensuite Joyeux Noël, qu'il avait beaucoup aimé. Bref, donc il m'aimait bien. Bon. Et puis ensuite, quand je lui ai proposé le concept, je lui ai dit, voilà, on tourne en 8 jours, t'as pas le scénario, etc. Il m'a dit, vous êtes complètement dingue. Mais je vous aime bien, les Français, parce que vous proposez des trucs. Ça, on me proposera jamais aux États-Unis, parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Alors, je vais le faire. Et c'est comme ça que ça s'est déclenché avec lui. Et ensuite, Claire Foy, ben, quand elle a su que McAvoy voulait le faire, et quand elle a compris comment le film allait se faire, c'est-à-dire qu'elle aurait le scénario, mais pas lui, pareil, elle nous a dit, c'est complètement dingue. Et j'ai envie de le faire, parce que on nous proposera jamais, effectivement, ce genre d'expérience aux US.
C'est ça qui est génial. Alors, on y raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Ethan, qui disparaît. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on a un père sur le retour qui, lui, est prêt à tout pour faire la lumière, quitte à aller très loin, mais il est prêt à tout. Et c'est la question justement que pose le film, jusqu'où pourrions-nous aller pour protéger les nôtres?
Absolument. C'est aussi un film sur la culpabilité. C'est un père qui était très absent et qui revient, il est rongé par cette culpabilité et il va essayer de se racheter quelque part. Il devient un vrai chien de chasse et c'est amplifié par le fait que justement McAvoy ne sait rien, donc il essaye de tout imaginer. On lui fait croire à des choses aussi, nous. On le manipule. Donc il part dans différentes directions, puis à un moment donné, il a une piste et il va tirer sur le bout de laine là et toute la pelote va venir. Et j'ai adoré le voir voilà, réagir, comprendre, avancer. Et puis à un moment donné, oui, c'est une question sur la violence, sur la moralité. On a tous une éducation non violente pour vivre ensemble et ne pas se taper dessus, sinon c'est invivable.
Y compris le personnage de James qui est éduqué comme ça.
Exactement, on est tous bien élevés, je dirais. Mais il peut arriver que dans des circonstances particulières, quelque chose en nous, plus animal, ressurgit. Et ça m'intéresse, moi, de voir ça. Après, je pense que le film est moral, puisque je vais pas dévoiler la fin, mais à un moment donné, faut régler ses comptes. Mais néanmoins, c'est le moment de bascule que je trouve intéressant. Parce que le public va le ressentir comme quelque chose qui pourrait lui arriver aussi. Et le cinéma, ça sert à ça. C'est de vivre par procuration des situations qu'on n'a pas envie de vivre. Mais le cinéma est un exutoire. Voilà, d'abord, vous tous, s'il n'y a pas d'émotion dans un film, c'est pas la peine d'aller au cinéma.
C'est pas faux. Il y a une scène, Christian, que vous redoutiez un petit peu, ou pas la préparation? Est-ce qu'il y a beaucoup de scènes aussi dans l'obscurité? Par exemple, est-ce que c'est pratique de filmer justement au long cours avec des plans assez longs dans ces conditions-là?
Non, même si je l'avais déjà fait une fois en France, sur le plateau du Vercors, on avait tourné avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent. On avait cette expérience, certes, mais on remettait tout en jeu, en fait. Donc, je peux vous dire qu'on dort pas bien. On est très tendu, mais tout ça, je crois, crée la tension sur le plateau et donc à l'image. Les scènes angoissantes, pour moi, c'était... Tout m'a angoissé parce que je ne savais vraiment jamais ce qu'il allait faire. Autant je connaissais très bien Guillaume, mais je ne connais pas du tout McAvoy, en fait. Donc, où il allait m'emmener, on n'en savait rien. Ça m'a fait flipper. Et puis après, techniquement, ben, j'avais dit au chef-op, s'il est dans une pièce qu'on n'a pas préparée, donc il fait tout noir, bah tant pis, on filmera le noir. Et c'est arrivé deux ou trois fois, des moments où on le voit plus, mais on l'attend, on le récupère, et c'est pas grave. Il faut pas chercher à être, de rendre tout visible. L'invisible peut être extrêmement éloquent.
Et mystérieux. Par la même occasion, c'est vrai.
Non, mais tout ça, on est dans un film de genre, c'est un polar. Et ben le polar a ses règles. Et la première règle pour moi, c'est de tenir en haleine le public. Donc quand l'acteur passe dans le noir, c'est pas mal. Ça m'intéresse.
C'est clair. Et moi, je vous conseille vraiment ce film. 1h34, très à le temps. Vous allez le découvrir mercredi au cinéma. Dernière question, Christian. Comment on se sent à deux jours de la sortie, là.
Bah, un peu comme quand on tourne le film, un peu, on dort pas bien. Non, mais on fait des films pour les gens, voilà. C'est très important. Et on fait des films pour les salles de cinéma. Le film va sortir en salle. Il est sur grand écran. On a travaillé une bande son, je pense, de dingue.
Ah oui, qui est signé Laurent Pérez Delmar, d'ailleurs, qu'on aime beaucoup dans notre émission, qu'on reçoit régulièrement.
Non, mais c'est un grand compositeur. Plus tout le travail sur le son, sur les éléments naturels, la pluie, je vous ai dit, mais plein d'autres choses. Donc ça, chez soi, ça marche pas aussi bien, même si on a un très bon home cinéma. Et puis surtout, ça se vit à plusieurs. Enfin, je veux dire, une expérience de cinéma, c'est aller dans une salle avec des gens qu'on connaît pas. On se prend un film dans la figure quand il est réussi, et on vit un moment particulier qu'on ne vivra jamais chez soi. Et il faut, je dis aux gens, il faut retourner dans les salles. Les salles ont besoin du public, mais je pense aussi que le public a besoin des salles pour vivre une émotion qu'il n'aura jamais chez lui.
Myson, c'est le nouveau film de Christian Carion, c'est donc mercredi au cinéma. Merci Christian d'avoir été avec nous.
Mais c'est toujours agréable de parler avec quelqu'un qui a bien vu le film. Merci bien.
Merci beaucoup, et puis tout de suite, eh bien, petit extrait pour vous.
Prêt, fermé, 1, 2, 3. C'est la parole de mon père. Il aurait voulu être là aujourd'hui, mais il n'a pas pu.
Quand j'ai regardé dans sa cabane, j'ai vu que son sac était là. Que ses vêtements étaient là. J'ai cru comprendre que vous aviez beaucoup voyagé. Vous êtes allé en Libye, en Irak. Est-ce que vous avez des raisons de croire que c'est à cause de mon métier ce qui est arrivé à mon fils? Nous envisageons toutes les hypothèses, y compris l'enlèvement.
Et dans un instant, Andrea Furet, Agustin Galliana, Rebecca Benamour, Clovis Cornillac et Fabrice Marouca nous rejoignent pour ce lundi de Toussaint dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré à Il et Elle, le téléfilm événement qui sera diffusé ce soir sur TF1. On l'attendait depuis que son héroïne avait été primée au Festival de Luchon avec le prix d'interprétation féminine. Elle avait promis de revenir dans Chut, on écoute la télé. C'est Andrea Furet qui est notre invitée. Bonjour Andrea.
Bonjour.
On se l'était promis, effectivement. Je crois que c'est un beau souvenir, le Festival de Luchon, hein, maintenant avec ce prix d'interprétation féminine pour ce très beau film qu'on va voir ce soir.
Ah oui, c'était un très beau souvenir. C'est vrai que c'est beaucoup de souvenirs qui remontent. Et à chaque fois que je vois que le film va être diffusé, ça me rappelle cette prise d'interprétation. Et de me dire que j'ai réussi à faire ça, et c'est une grande fierté en tout cas.
Moi, j'ai eu la chance de le voir justement en avance au festival. Et il est vrai que voilà, on traite de la transidentité avec beaucoup de pudeur, avec aussi voilà ce héros auquel on s'attache très très vite, qui est Julien au tout départ, qui devient Emma dans la deuxième partie du film. Vous avez eu des réticences au départ à jouer ce rôle ou pas du tout? Quand vous avez lu le scénario, vous vous êtes dit « Oh là là, c'est pour moi ça ».
Bah, c'est vrai que quand déjà on m'en a parlé, on m'a parlé de ce projet, on m'a dit « Bah écoute, si jamais ça te tente de passer le casting, voilà, on va t'envoyer le scénario, parce que c'est un rôle qui pourrait effectivement correspondre ». Au début, j'avais pas forcément de réticences. Je me suis dit « On va attendre de voir le scénario », parce que c'est vrai que bah, c'est un sujet que je maîtrise très bien. Je me suis dit « Oh là là ». C'est la fin qui s'attaque à un sujet comme ça. Je dirais pas que j'avais de la réticence, mais en tout cas, j'attendais de voir comment le sujet était traité. Et c'est vrai que bah, pour le coup, quand j'ai lu le scénario, je me suis très vite identifiée au personnage, surtout en tout cas dans la deuxième partie. L'histoire m'a beaucoup touchée, comme elle a touché d'ailleurs tous les autres. D'ailleurs, je crois que j'ai été la seule qui n'ait pas pleuré. Parce que tout le monde m'a dit, moi, j'ai vraiment fondu en larmes quand j'ai vu le scénario. Moi, c'est vrai que ça m'a touchée. Et en tout cas, voilà, j'ai tout donné pour le casting. Et envie de voir que ça leur a plu et d'avoir été pris pour ce rôle. Mais non, pas forcément de réticence.
Première partie du film, on va suivre le parcours de Julien qui n'est pas bien dans son corps. Vous le jouez formidablement bien quand Andrea Furet devient Julien. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est beaucoup de maquillage? C'est une perruque? Est-ce que vous vous êtes fait couper des cheveux? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes préparé?
Alors ça, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup, c'est comment t'es passé de ça à ça, c'est-à-dire beaucoup penser que c'était mes vrais cheveux. Et quand tu me voyais le soir sans la perruque, sans maquillage, il bégayait un peu.
C'est vrai que
c'était assez marrant. Il y a eu beaucoup de préparation en tout cas pour avoir ce résultat physique pour Julien, c'est-à-dire oui, la perruque, voilà, il y a eu plusieurs rendez-vous pour discuter de la perruque, de la couleur de cheveux, que ça reste le plus naturel possible. On m'a proposé de couper mes cheveux, mais après c'est vrai que c'était mieux d'avoir une perruque pour le côté Julien et d'avoir mes vrais cheveux pour le côté Emma.
Oui.
Voilà.
Andrea, ce prix d'interprétation féminine au Festival de Luchon, moi je l'ai très bien compris, parce que vous avez tellement su faire ressentir sur toute la période de Julien cette souffrance, parce que là on parle vraiment de souffrance, c'est même pas voilà une question d'acceptation ou d'essayer de se dire voilà, faut qu'on s'accepte comme on est. Là on sent vraiment la souffrance, et vraiment un grand bravo pour avoir su nous faire ressentir ça, parce que c'était ça aussi le challenge du film, c'est nous faire ressentir la souffrance du héros.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que Juju, c'est quelqu'un très mal dans sa peau, ça se comprend. Lui vraiment cacher sa souffrance, c'est-à-dire que même si tout le monde autour voyait que il y avait un truc qui n'allait pas, il gardait un peu ça pour lui au début, hein, bien sûr. Voilà, notamment quand il se terrifiait, malheureusement, c'est peut-être beaucoup d'adolescents qui sont mal dans leur peau et qui sont en souffrance. C'est vrai que quand j'ai interprété en tout cas pour la partie de Julien, voilà, j'essayais vraiment de faire ressentir cette souffrance, mais très naturellement, voilà, fallait pas dire oh là là. Regardez, je souffre. Vous avez vu comme je suis mal dans ma peau. Voilà. C'était beaucoup dans le regard et beaucoup dans les gestes. Voilà.
Vous avez conscience que vous risquez de faire libérer la parole peut-être à pas mal de jeunes gens qui se sentent pas bien aujourd'hui, que grâce à vous, peut-être que la parole va réussir à se libérer. Vous en êtes consciente de ça, Andrea?
Pour l'instant, je le réalise pas trop. Après, on verra hein, si jamais je peux aider des jeunes à parler ou à ne plus souffrir, à ne plus cacher leur souffrance. Ce sera vraiment une très belle victoire.
Alors, on va parler maintenant de la deuxième partie, hein, où là, vraiment, Emma est en pleine naissance, en quelque sorte. On va découvrir ce personnage voilà, sur la deuxième partie, avec vraiment plein de facettes différentes.
La chenille devient un papillon.
C'est exactement ça. Et je crois que vous poussez la chansonnette aussi, hein, vraiment, dans le film.
Oui, c'est ça.
Vous allez voir Andrea chanter.
Exactement, ouais. Moi, je pensais pas que j'allais devoir chanter, mais finalement, il m'a dit, bah écoute... Ta voix n'est pas si catastrophique que ça, donc on va la garder.
Quand on a deux parents, comme là, vous avez dans le film, j'imagine votre fierté de pouvoir jouer justement avec Odile notamment, et Jonathan bien sûr.
Oui, bien sûr, je les connaissais déjà, je les connaissais pas plus que ça, mais après, j'ai vraiment pu vraiment découvrir ces personnes sur le tournage. C'est vraiment deux très belles personnes, et je leur souhaite de continuer leur belle carrière, parce que c'est vraiment deux acteurs incroyables, et j'ai vraiment ressenti... ce côté maternel et paternel qu'on a essayé de faire dégager à l'écran. On a bien rigolé sur le tournage et
j'imagine bien. Les connaissant bien tous les deux, oui, j'imagine que vous êtes bien amusés. J'en suis sûr.
Ouais.
Ils ont été ils ont fait preuve de bienveillance. J'en suis sûr aussi à votre égard.
Exactement.
Vous avez su faire passer justement cette souffrance à travers le personnage de Julien et cette renaissance à travers le personnage d'Emma, Andrea. Mais il y en a un aussi qui a su faire passer vraiment la souffrance de père qui était peut-être encore plus insoutenable que celle de Julien, c'est Jonathan Zakaï. Franchement, c'est lui dans le film qui a le plus de mal à accepter que son fils devienne sa fille. Il est incroyable de justesse, Jonathan aussi. Il vous a bouleversé par moments, notamment je pense à la scène du restaurant que vous verrez dans le film qui met les larmes aux yeux clairement.
C'est vraiment vrai, il m'a vraiment bouleversé. C'est vrai que il a vraiment su montrer cette souffrance du père. Et lui, pour le coup, le père va vraiment l'extérioriser. Il est un peu dans le déni parce que voilà, je ne sais pas s'il se rend compte que c'est inéluctable et que Julien va vraiment faire sa transition. Il va emmener Juju voir des psychiatres en se disant peut-être que voilà, il y a encore moyen de le faire changer d'avis. Et malheureusement, c'est une vérité. Beaucoup de parents dans ce genre de situation sont dans le déni, se disent non, mais c'est pas ça, c'est sûrement la crise d'adolescence, il ou elle se cherche. Il m'a beaucoup bouleversé parce que c'est vrai que c'est pas un rôle évident. Et ouais, il y a beaucoup de scènes où ça a été très intense, que vous verrez à l'écran.
On va suivre ça ce soir sur TF1. On va pas dire évidemment comment le film se termine, mais moi qui l'ai vu, il se termine d'une façon, clairement, on a envie d'en voir plus. Est-ce que vous, Andrea, vous avez aussi envie d'en tourner plus et peut-être de faire un 2 ou le décliner peut-être en mini-série?
Ah bah en tout cas mini-série ou deuxième film, ouais, je serais absolument ravie de faire une suite parce que c'est vrai que c'est une très belle fin et en même temps ça nous laisse un peu sur notre fin, c'est-à-dire
c'est
que
ça.
Ouais, exactement.
Merci Andrea d'avoir été avec nous. Il et elle, c'est ce soir sur TF1. On ne le rate pas, c'est vraiment notre coup de cœur aujourd'hui à ne pas manquer. Et puis je vous dis à très très bientôt pour la suite et je suis sûr que ça va ouvrir plein de portes. On n'a pas fini de vous avoir dans Suite, on écoute la télé, j'en suis certain.
Merci, au revoir.
Merci, à bientôt Andrea, au revoir.
Qu'est-ce que tu fais, tu viens? J'arrive. j'arrive, je sors deux secondes.
Si je vais à l'école, c'est comme ça.
Moi, je préfère mourir qu'être un garçon.
Donc moi, je suis salaud, c'est ça? Parce que je suis son père et je veux pas qu'on lui coupe les couilles?
Bah moi, je suis sa mère, je veux pas qu'il se coupe les veines.
Tu vois ce que c'est la vraie vie? Pour un garçon qui s'habille en fille, vas-y, allez, rentre à la maison à pied.
Moi, je veux juste que mon bébé aille bien.
Une chance qu'ils acceptent comme il est, c'est ça la priorité.
Et il y a un an, la série débarquait sur vos écrans, chamboulant le 18h30 de TF1 en lui permettant de doubler ses audiences. Ici tout commence. Arrivée à la télévision et devient un phénomène de société en très très peu de temps. La série est un véritable carton. Fête, c'est un an aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. On reçoit Agustin Galiana et Rebecca Benamour dans Chut, on écoute la télé. Coup de cœur télé pour Ici tout commence et on continue et bien dérouler chaque semaine les personnages de votre série que vous suivez du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1 et c'est Agustin Galiana qui nous rejoint. Bonjour mon cher Agustin.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, merci d'être avec nous. Lisandro Iniesta, il est sévère Lisandro, mais quand ce qu'on l'aime, il est toujours juste avec les élèves.
C'est vrai, il est rigide, mais il fait ça, il est rigide, il est très sévère, mais il fait ça pour que les élèves apprennent à faire ce qu'il faut dans le restaurant. Donc il a ce côté rigide, mais il a un côté aussi bienveillant. Et surtout, ce que j'aime de Lisandro, c'est qu'il aime les élèves avec des failles. Il les met à sa place, mais après, il essaie d'adoucir les choses. Et il est très compréhensible par rapport. Il comprend très bien les failles des autres.
Mais oui, puisqu'il a aussi les propres siennes.
C'est pour ça.
Avec son fils, c'est un peu son talon d'Achille, son fils, voilà, qu'il aime par-dessus tout.
Ouais, c'est ça. La relation avec son fils, cette relation, elle est au-dessus de tout. Il n'y a rien qui peut toucher cette relation et pour lui, c'est très important.
C'est un cadeau, une série comme ça, quand tu vois le succès qu'elle a, toi, qui fait Clem, qui fait plein d'autres séries. Mais quand tu vois une série quotidienne qui s'installe de façon tellement rapide dans le cœur des téléspectateurs, je crois que c'est une première qu'une série s'installe aussi vite.
Ah, tu crois que c'est la première fois que ça arrive comme ça, d'une quotidienne qui s'installe comme ça, que le public, il devient...
Et aussi fidèle.
C'est incroyable, mais je pense que Kid Essay a une force que pas beaucoup de séries a. Déjà, c'est l'univers qui attire beaucoup les gens. Les châteaux où on tourne, c'est vraiment un personnage. Et pour moi, que TF1 compte sur moi pour toujours des projets qui ont du succès, pour moi, c'est énorme. C'est un vrai cadeau. Et quand on m'a proposé ce personnage pendant le confinement, j'ai dit oui tout de suite parce que j'ai trouvé le concept de la série très intéressant.
Comment tu t'es préparé? T'as été voir justement des chefs de salle, raconte.
Non, j'ai fait un coaching avec un chef de salle qui est venu m'expliquer comment mettre la table, comment mettre le couvert, comment mettre les verres, comment se comporter. Et après, moi, je suis comédien, donc quand tu joues un maître d'hôtel du niveau de Lisandro, qu'il a été barman dans un palace, il a eu un parcours très 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 intéressant. Il a travaillé dans des restaurants avec des étoiles Michelin et tout. Donc évidemment, tout ça, tu le mets dans ta tête et tu te places. Je pense que Lisandro, il a une élégance innée qu'on voit pas dans beaucoup de personnages dans la série.
Alors il y a aussi sa relation avec Anaïs, évidemment, qui a semé un peu le trouble dans sa vie, bien évidemment, et dans celle d'ailleurs d'Anaïs.
Ouais, c'est une très belle histoire d'amour. Le public, il a très bien accepté ce couple prof-élève, pas comme Macron et sa femme.
C'est vrai, hein?
Bah, il faut tout dire, hein? Parce que là, ils ont rien dit, hein? Ils ont pas râlé, là, hein? Ils étaient aux anges avec l'histoire d'un prof et son élève 18 ans moins, plus jeune que lui. Non, pour moi, c'est une des couples phares maintenant de la série. Je pense que le public, il a très envie qu'ils restent ensemble, mais il peut pas rester ensemble pour faire ni-ni-gnon-gnon et s'embrasser tout le temps et dire tout va bien. Ça, c'est pas intéressant. Il faut mettre des problématiques, hein? Et c'est ça qu'on va voir bientôt.
Ah, on attend avec impatience. Alors évidemment, il y a Clem aussi que tu as tourné en parallèle. Comment tu fais? T'arrives à dormir encore un petit peu?
Bah oui, j'arrive à dormir et voilà, j'ai fait ça avec beaucoup de persévérance et avec des équipes qui organisent ça merveilleusement bien, parce que sinon ce serait impossible. Je suis très bien entouré, du coup les deux productions se parlent beaucoup, ils essayent de caler ça comme ils peuvent et voilà.
Et puis là, évidemment, ta partenaire de jeu, il y a une petite coupure là dans Clem, hein, puisque vous tournerez la suite un petit peu plus tard en novembre. Le temps de laisser le temps à Lucie Lucas, à qui on va lancer un appel au soutien, puisque elle est partie pour l'aventure Danse avec les stars.
Elle est très intelligente.
Et l'aventure, t'as vécu en plus.
Elle a été très intelligente parce que moi, j'ai tourné Clem en même temps qu'elle a fait, que j'ai fait Dals. Et là, on lui a fait un bon trou pour qu'elle puisse faire Danse avec les stars entre les deux sessions de Clem. Et ça va lui faire beaucoup de bien parce que c'est très fatigant.
Ouais. Toi, tu l'as gagné en plus, Danse avec les stars, tu l'as gagné. Je suis sûr qu'elle t'a demandé plein de conseils.
Ah, bah évidemment, même avant qu'elle me demande, je lui avais déjà donné. Ah, bah oui, évidemment, parce que je l'aime beaucoup. On travaille ensemble depuis 8 ans. C'est pour moi, c'est ma petite sœur. Donc, quand je sus qu'elle avait été approchée, je lui dis il faut que tu le fasses. Dis oui tout de suite. Pour moi, c'est une émission que je me suis beaucoup amusé. J'ai beaucoup profité de cette émission. Pour moi, c'était une belle aventure, une belle expérience. Et comme j'aime beaucoup Lucie, je lui souhaite le même parcours que moi, qu'elle profite comme moi je l'ai profité.
La musique, c'est quelque chose qui est cher à ton cœur aussi.
Et après, ce qui est cher à mon cœur aussi, c'est qu'Aurélie, elle est aussi là.
Ben oui.
Donc là, j'ai.
Donc on soutient Aurélie.
Un tout petit peu aussi. Donc voilà, Lucie, elle est ma sœur, mais avec Aurélie aussi, j'ai un
cœur balance.
Et voilà, j'ai les cœurs partagés.
C'est dur, hein.
C'est très difficile.
Bon, en tout cas, on les soutient toutes les deux, bien évidemment, et on espère qu'elles vont aller le plus loin possible.
Ouais, j'espère.
La musique aussi, c'est cher à ton cœur.
Bah oui, évidemment, la musique, elle est chère à mon cœur, mais le Covid a tout chamboulé, et c'est vraiment compliqué. C'est compliqué parce que toutes les dates de ma tournée, j'en étais éparpillé en 2 ans, et voilà, j'ai décidé avec mes équipes de pas faire une partie de la tournée parce que je trouvais que c'était trop loin de la sortie de l'album, et du coup, ma tournée, ça va finir là en novembre. J'ai fait une quinzaine de dates, et voilà, il y a des dates que j'ai dû reporter parce que c'était pas possible.
Bon, nous on va te faire un cadeau maintenant.
Ah oui?
Ouais. On va prendre ton dernier album et tu vas choisir le titre que tu as envie qu'on diffuse maintenant pour te faire plaisir.
C'est vrai?
Ouais. Tu nous dis.
Vous allez partager l'amour à la plage, mais la version remix, qu'elle est très chouette. Dans la réédition, donc je trouve que ça bouge beaucoup et ça va donner envie les gens de passer une belle journée, quoi.
Extrait de ton dernier album, L'amour à la plage, remixé, réédition de l'album d'Agustin Galliana. Merci, Agustin.
Merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir de te retrouver et de parler avec toi un peu.
Donc, on se retrouve très vite.
Bah, j'espère.
Et on espère très vite aller te voir à Calvière. Tiens, ça serait sympa, ça.
J'espère bien.
À bientôt.
Bisous pour tout le monde. Et bisous pour tout le monde.
Et on continue à mettre les personnages d'ici tout commence comme toutes les semaines à l'antenne. Et quel plaisir d'avoir pour la première fois dans Chut on écoute la télé Rebecca Benamour qui est avec nous. Bonjour Rebecca.
Bonjour Alain.
C'est le personnage de Célia qui nous amène tellement d'émotions depuis un an et demi.
Ah bah ouais, moi aussi, hein. C'est toujours très très différent, très polyamoureux, très on est amoureux de son frère. C'est toujours toujours une étape de vie, mais c'est cool quoi, ça change.
C'est la spécialiste des amours impossibles, Célia.
Oui, Célia se cherche beaucoup au niveau de ses histoires d'amour et il y a toujours, elle me surprend toujours. Là, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver aussi, donc vous allez voir, restez connectés, hein. Ça va être cool.
Alors, elle va devoir faire face aussi, bien sûr, au retour de Jérémy, qui fait son grand retour. Pierre Hurel, qui revient dans la série. Là aussi, un bonheur. On a cru qu'il n'allait pas revenir. On est contente de le voir revenir.
Ah bah moi aussi, je suis trop contente. C'est mon partenaire de jeu depuis le départ. Donc, il y a un truc particulier quand je joue avec lui. On a commencé l'aventure ensemble. Et ouais, bon, pour combien de temps il revient, voilà, on sait pas encore. Je crois que même Jérémy ne sait pas exactement combien de temps il reste. Mais en tout cas, l'Australie lui a fait du bien. Et il est toujours très content de retrouver Célia.
Et il va mettre évidemment un peu la pagaille dans ce trouble avec Célia, Solal, Ambre. À mon avis, ça va pas être de tout repos dans les semaines qui vont venir.
Non, c'est pas tout repos. Après, c'est toujours pareil, hein. C'est compliqué parce que quand Célia revoit Jérémy, on a l'impression que parfois il y a plus rien qui existe autour. Donc avec Solal, c'était plus sexuel qu'avec Jérémy parce qu'avec Jérémy, il pouvait pas se passer grand chose. Donc forcément, il va y avoir du mouvement, ouais. Et puis Ambre va peut-être se mêler un petit peu parce que Ambre, elle se mêle toujours de tout. Après, heureusement, il y a Elliot et Hortense, enfin voilà. Donc ça va être très 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 cool, j'ai hâte que tout le monde voit ça.
Bon, alors la chose que j'ai demandé à tous ceux qui sont passés pour la première fois dans notre émission, Rebecca, c'est comment t'as réagi toi la première fois que t'es arrivée à Calvière et que t'as vu ce décor qui allait vous appartenir, dont vous alors, alliez prendre possession au fur et à mesure des épisodes, parce qu'il est hallucinant ce décor.
Écoute, moi j'ai visité le château avec Francis Huster, je me souviens au tout début, en fait, on a commencé l'aventure ensemble et j'ai visité ça avec des yeux écarquillés, j'en revenais pas de ce décor où j'allais être là pendant tous les jours de ma vie, pendant au moins un an. En plus, moi j'ai les marais salants. Donc j'ai un double décor absolument unique et sublime, et on s'estime très chanceux de pas être en studio. Donc on est dans les décors naturels, on est dans un vrai truc, on est dans un vrai château avec des pierres qui sentent le château. On a de la chance quoi. On a des étoiles dans les yeux même encore aujourd'hui.
Puis il y a une amitié très forte qui s'est créée entre vous tous.
En fait, c'est ce qu'on dit tout le temps, on est un peu comme une troupe de théâtre, c'est-à-dire que on peut compter toujours les uns sur les autres, on a commencé l'aventure ensemble. En fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est quand même très très sincère et c'est toujours bienveillant.
C'est pour ça que ça marche.
Mais je crois qu'en fait ça se ressent, et à chaque fois que les gens nous rencontrent, ils nous disent mais en fait on a l'impression que vous êtes aussi comme ça dans la vraie vie, et c'est ça, parce qu'on a commencé, on habitait tous ensemble. Moi bien sûr j'avais beaucoup de scènes avec Catherine et Nico, avec Pierre, avec mes parents, avec ma mère aussi, Diane Robert. En fait j'ai que des partenaires de ouf, et même les guests sont trop bien, donc je crois que la productrice a un œil pour ressentir aussi les gens qui sont bienveillants et optimistes, parce que ça se ressent, je crois, donc c'est la vérité, ça se passe très bien.
On parle cuisine ? Allez, quel est le plat que toi tu préfères cuisiner?
En fait, je dirais que je suis plus sucrée. Donc, je peux partir pendant le confinement. Je me suis essayée sur plusieurs trucs un peu sucrés, genre des tartes à thym, des erreurs torteux, parce que mon père il fait ça. Et j'ai essayé, c'est pas toujours réussi. Mais franchement, je suis trop naze en cuisine, quoi, depuis le départ. Et c'est compliqué parce qu'en plus, Célia elle est forte en cuisine. Et honnêtement, quand j'ai des scènes en cuisine, c'est le bordel. À chaque fois, je suis archi coachée parce que j'arrive même pas à couper des patates quoi, donc voilà, c'est jamais de ton repos quoi, c'est toujours comme ça, voilà, c'est bien, on se surprend tous les jours.
Bon, t'as envie de goûter des fois les plats?
On les goûte toujours.
Bah oui, j'espère bien.
Attends.
Faut pas laisser perdre, hein.
Mais attends, mais même quand moi, c'est pas mes séquences, moi, je viens sur le plateau et j'y reste quoi et tout. Et parfois, ils font des essais et ils le montent pas forcément, mais moi, je goûte tout. Alors, la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai goûté? Un truc avec des champignons, des girolles et tout, c'était fou. Merci Mika à la cuisine. Pas Mika Greg, mais un autre. Un autre Mika.
Oui, voilà. pas Mika Elmichat.
Mais il est très très doué en cuisine, cela dit. Donc bon, Flavio était très doué aussi en cuisine, mon papa qui est italien, donc il nous faisait des plats italiens de fou. Et voilà, et Nico et moi on fait toujours des trucs un peu des assortiments très très chelous. C'est trop bizarre. Je sais pas, moi j'aime bien mélanger genre du miel avec du maïs et du fromage et des trucs sucrés genre des fraises, enfin c'est trop bizarre. Mais c'est coloré.
Si je te dis que j'adore marier le roquefort et l'ananas, moi tu sais.
Ah bah voilà.
Bah ouais.
Ça peut être pas mal, ouais.
Tu vois, je vais donner des idées. Une pizza roquefort ananas.
Ah ouais, sympa. Ok, vas-y, je vais tester. Bon, le roquefort, je suis pas une grande fan, mais why not? Ça peut justement adoucir le côté fort du roquefort. Ok, voilà. Je vais tester.
Exactement. Bon, écoute, pour la suite, il y a plein de belles choses qui s'annoncent. On le disait, le retour de Jérémy. Est-ce que ça t'a laissé le temps pour faire d'autres choses aussi cette saison?
Écoute, moi là, oui, je pars sur un autre tournage aussi. Donc ça, c'est bien. On a un emploi du temps qui est très très chargé. Donc parfois, c'est un peu compliqué de
s'extirper.
En fait, on peut même pas combler les trous, si tu veux, parce qu'il y a pas trop de trous. Mais moi, à Paris, je fais beaucoup de doublage de voix, et ça, j'arrête pas parce que c'est une passion que j'ai depuis toujours, et j'ai commencé comme ça, et j'arrêterai pas. Puis là, ça commence à bien se combiner pour que je fasse d'autres choses, mais ma priorité aussi étant ITC, je ne l'oublie pas.
Chouette.
Ouais.
Bon, plein de belles choses qui nous arrivent en tout cas, et on va continuer à suivre le personnage de Célia, les retrouvailles avec Géry. Moi, il y avait une séquence qui m'avait marqué, parce que j'aime bien terminer aussi par ça, c'est la séquence qui t'a peut-être le plus marqué pendant cette année et demie. Et il est vrai que c'est nous qui nous a le plus bouleversé, c'est cette séquence de suicide dans le bateau. Vous étiez tous les deux, elle a été mais bouleversante cette séquence pour nous téléspectateurs.
Ah ouais, nous on avait trop froid, mais on a été au bout du rôle, je crois moi. Mais non, mais c'était génial. Et puis en plus, si tu veux, quand Elsa elle s'est mise à crier, puis tu sais, c'était vraiment, on sentait les tripes d'une mère qui parlait, quoi. Elle a poussé son cri, ça nous a tous trop émus. On était avec une équipe de fous, et ça reste, en tout cas moi, même encore aujourd'hui, ça reste la séquence qui m'a le plus marquée. Avec une autre qui arrive, mais je veux pas dévoiler. Une autre qui a été très très marquante, pas avec Pierre cette fois, mais cette séquence reste la number one, ça c'est sûr. Et voilà, et puis on finit en disant que moi j'ai trop de chance d'être ici. Je vous remercie de nous regarder, je vous remercie d'être aussi bienveillant, et à bientôt peut-être.
Merci Rebecca. Merci, à bientôt.
Ouais, à bientôt, ciao.
Someone else.
Et voilà, un an ici, tout commence anniversaire avec cette belle musique que vous avez l'habitude d'entendre dans votre série préférée. Pour la suite, Fabrice Marouka et Clovis Cornillac nous rejoignent. Alors surtout, bougez pas. À tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. La télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
On démarre notre spécial si on chantait. Le film sort mercredi dans les salles. Une vraie bouffée d'oxygène. Un film où vraiment, non seulement on rit, il y a de l'émotion, il y a de la musique, on chante. Bref, il y a toutes les qualités pour un premier film en plus de Fabrice Marouka qui est justement avec nous. Bonjour Fabrice.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous. Il n'est pas venu seul Fabrice, puisqu'il est venu avec Clovis Cornillac qui est avec nous, qui joue Jean-Claude dans le film. Bonjour Clovis.
Bonjour à tous.
Merci d'être là. Fabrice, coup de maître. Premier film, vraiment hyper réussi avec un casting. Artus, Alice Paul, Annie Gregorio et puis Jérémy Lopez quand même de la comédie française. Et franchement, on passe un moment mais extraordinaire avec ce film.
Ben merci, c'était le but. C'était de faire des personnages humains ancrés dans la réalité. C'est tourné dans la ville où j'ai grandi, à Kiev-Rochin. C'était des gens simples, comme j'en ai connu toute mon enfance, toute ma vie. Et j'ai réussi à trouver ça parmi ces acteurs, donc Clovis qui est avec nous et qui incarne parfaitement Jean-Claude.
Alors comment est venue l'idée justement de Si on chantait? Ça existe vraiment hein, justement ce genre de site internet, je sais pas si on peut appeler ça un site internet ou une entreprise hein, finalement.
Oui, ça existe. Je m'en suis rendu compte en écrivant, ça existe un peu partout. Il y en a dans le Nord, il y en a partout. Depuis les années 2000, si je me suis bien renseigné. Moi, je pense que tout est venu de mon côté, parce que dans la ville où j'ai grandi, il y avait une émission de radio le dimanche où on pouvait dédicacer des morceaux des disques, en fait, à des gens de sa famille, à des amis. Et j'écoutais ça tous les dimanches, je me rappelle. On disait c'est pour l'anniversaire Georgette de la part de tonton Maurice, tout ça. Et moi, je trouvais ça vraiment génial qu'on pouvait donner comme cadeau une chanson. Et ça m'est resté en fait, et c'est très très longtemps après que j'ai commencé à écrire, mais je pense que tout vient de là en fait.
Malgré le planning chargé, malgré la réalisation d'un film que tu viendras nous parler aussi en début d'année, Clovis, t'avais vraiment envie de faire partie de cette troupe et de faire partie de ce film. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie tout de suite d'y aller?
On savait pas que ça allait fonctionner comme ça forcément entre nous. Ce qui donne envie de faire un film, c'est d'abord évidemment un scénario. Donc le scénario, je trouvais vraiment original, chouette, pas prétentieux, très honnête et tout. Et en rencontrant Fabrice, ça n'a fait que renforcer le désir qu'il y avait de rentrer sur l'aventure. Après, il s'avère que les personnalités, les gens qui ont participé à ce film, c'était des jolies personnes, quoi. Donc, il y a une sorte d'envie commune, comme ça, qui s'est propagée via Fabrice, et tout le monde travaillait pour lui, pour son film. Je trouve que ça transpire à l'image. C'est un film, effectivement, que je trouve absolument sympathique, et quand je dis sympathique, c'est vraiment sympathique, c'est-à-dire ça crée de la sympathie, de l'empathie. Souvent les gens là dans les salles nous disent ça met de bonne humeur, ça file la pêche. Cette notion comme ça de film où tu dis tiens, j'ai assisté à un moment de bonheur, quoi, à quelque chose qui file du jus. Donc c'est des choses qu'on pouvait pas savoir avant, et heureusement, parce que sinon on n'aurait pas ce bonheur de une œuvre entre guillemets. Elle se fabrique quand elle se fabrique, elle ne se fabrique pas avant, donc elle s'est fabriquée, il l'a fabriquée, et aujourd'hui de voir que ça passe, que ça traverse et que les gens s'en emparent, c'est formidable, c'est une très belle nouvelle, et c'était très agréable de travailler sur le film.
Fabrice, t'as senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui se passait quand même sur ce tournage, qu'il y avait vraiment une alchimie qui allait très vite entre les comédiens, entre les personnages, que ça fonctionnait?
Bah oui, en fait, j'ai eu de la chance que les comédiens et moi-même, on devienne tout de suite assez amis. Surtout les comédiens, je trouvais que la troupe marchait bien, il y avait des âges différents, jusqu'à Henriette qui a 72 ans au moment du tournage. Je trouvais que ça faisait une bonne strate de la société, quoi. Il y avait des jeunes, Clovis un peu plus vieux qui est une sorte de mentor, et puis Henriette qui est la mamie qui donne la pêche comme dans La Boum par exemple. Donc je trouvais que les personnages se mariaient bien, quoi. La troupe marchait.
Alors on se retrouve dans une histoire en fait où tous ces personnages sont au chômage et essaient de trouver l'idée pour se sortir de cette situation jusqu'au moment où il y a un déclic par un des personnages incarné par Marc Rizzo où ils se disent pourquoi on montrait pas justement une société pour aller livrer des chansons, on livre bien des fleurs, on livre bien des pizzas, pourquoi on livrerait pas des chansons et tout part de là évidemment et leur petite entreprise, eh bien on va voir si elle connaît ou pas la crise mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner. J'ai bien résumé ?
Tout à fait, c'est ça. Oui, c'est des gens qui sont au chômage au début du film. Moi, j'ai donc comme je l'ai dit souvent, je suis fils d'ouvrier. Dans les années 80, j'ai connu la fermeture des usines dans le Nord. J'ai vu le désespoir que ça donnait souvent. Et l'idée de ces chansons, c'est donner un peu de joie au malheur, en fait. C'était de dire, ok, on est tous dans la merde, mais en se serrant les coudes, on peut y arriver, quoi. Et les chansons, c'est une sorte de Madeleine de Proust pour plein de gens. Les chansons qui sont dans le film, je les connais toutes, évidemment, mais c'est des chansons que les gens connaissent aussi et il y a toujours des souvenirs associés. Donc, c'est amener de la joie dans le malheur, vraiment, cette histoire de chansons.
Comment, justement, le choix des chansons a été fait, le choix des acteurs qui allaient les interpréter? Parce qu'on va spécifier quand même que ce sont tous leurs vraies voix, que ce soit Clovis, que ce soit Alice, que ce soit Artus, c'est tous leurs vraies voix.
Tout à fait, c'est leur vraie voix. Ils ont été coachés par Mathieu Gonnet et Édouard Thiébaud, mais en fait, ils jouent des chanteurs amateurs, donc c'était pas forcément des ténors hein, qu'il fallait. Donc, on les a juste un peu aidés et la base était déjà là. Donc, pour le choix des chansons, en fait, j'ai essayé de mettre un spectre assez large des années 70 à nos jours. Donc, de nos jours, vous entendrez Angèle et Maître Gims, par exemple. Mais je reconnais que c'était surtout des chansons de ma jeunesse, c'est-à-dire des chansons des années 70 et 80. Voilà. Et le choix des chansons, c'était souvent gratuit, enfin c'était des chansons que tout le monde connaît, mais il y a quand même des chansons qui ont un sens dans le scénario, et je vais pas en dire trop, mais ce que chantera Clovis ou ce que chantera Alice dans le film, ça tombe pile poil au bon moment pour illustrer la scène.
Ça c'est sûr. On écoute la bande-annonce, Si on chantait, ça sort mercredi dans les salles, et on revient tout de suite après pour parler justement des chansons et de l'appréhension que ça peut amener justement de chanter. Clovis, on va en parler tout de suite.
J'ai pris une décision, on lance une boîte. Les gens appellent, ils choisissent une chanson, et nous on la livre à la personne de leur choix.
Si on chantait, bonjour.
Allez, chez les gens on chantait, et en plus être payé pour ça, oui, je dis oui direct.
Quand la musique te sonne, 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 sonne.
Faut que tu respires ici, là, plus bas.
Quand elle ne triche pas.
Ah ouais, c'est mieux, ah, je
non.
Le sens.
Non, bah non.
Hop, 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 hop. Salut les riders. Bonjour madame, si on chantait, on vient chez vous, on chante des chansons.
Allô.
Je crois que ça me ferait du bien de chanter avec vous.
Attends, mais 140 balles pour deux semaines de boulot.
Non mais c'est que le début, hein, ça va aller crescendo.
Bah vas-y, réponds.
Ouais.
Et le sourire dans la voix, tu souris. J'ai une livraison pour Marc.
Ouais, c'est moi.
C'est un message de Mélanie. Marc, je me casse. Adieu, du con.
Allez, de retour, notre spécial Si Enchanté. Clovis, tu as donné de la voix, justement. Est-ce que tu appréhendais ou pas de chanter? Ou alors, autrement, justement, ça t'a plutôt excité?
En fait, je me pose pas la question comme ça. C'est-à-dire que c'était ni un défi, c'est que c'était en fait dans l'histoire, c'est dans le scénario. C'est-à-dire quand tu le lis et que l'histoire te touche et t'intéresse, ben voilà, il y a ça. C'est comme voilà, que tu fais les Chevaliers du Ciel, tu dis oui, je vais piloter des avions. C'est-à-dire que c'est pas un désir depuis gamin ou une envie. Tu sais, c'est de se dire tiens, dans cette histoire-là, ça a du sens. Et puis au moment où on arrive à se dire bah oui, mais il va falloir les chanter. Effectivement, on a été coaché. Voilà, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie d'avoir à chanter pour des spectacles ou dans certains films. Je prends plutôt du plaisir. C'est pas quelque chose qui me gêne. Je suis pas un chanteur. Je ne revendique pas et je n'ai pas. Voilà, c'est pas un projet. Ça a jamais été ni une douleur ni une envie. Mais je trouve ça. Je trouve que dans le film, ça. Voilà, c'est joli parce que c'est aussi le rapport qu'on a tous les uns les autres avec la variété. Et avec la musique en général, c'est-à-dire cette espèce de prise directe avec le cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre avec la musique. La musique a cette force que le jeu ou le texte n'a pas forcément, qui est une prise directe. C'est-à-dire que, je pense, depuis l'âge des cavernes, c'est pas un hasard si ça chante et ça tape sur, pas des bambous, mais sur dans des grottes ou dans des trucs, c'est que c'est un moyen d'exprimer quelque chose d'immédiat, qui n'est pas intellectuel, qui est complètement organique. Et la variété a cette force-là. On est tous sujets à la variété. C'est-à-dire, je ne crois pas que des gens n'ait aucun rapport avec la variété, que ce soit bien ou mal, mais c'est un rapport immédiat à notre histoire, à des sentiments qu'on a pu avoir à certains moments, Et le film ne joue pas avec ses codes. C'est-à-dire, c'est là où c'est bien. J'aime beaucoup ce que fait Fabrice, c'est que c'est totalement au premier degré. C'est-à-dire, il joue pas à essayer de se servir de quelque chose pour en faire une sorte de matière à succès. C'est-à-dire un peu cynique.
Et pourtant, ça transpire à sincérité.
Exactement, c'est-à-dire que parce que c'est au premier degré et parce que en fait dans le film la variété et la chanson et la musique en général est traitée comme la variété est traitée, c'est-à-dire c'est simple, c'est direct, ça parle direct et le film il a cette force-là comme un morceau de variété, c'est très chouette.
Bon, je pense qu'à mon avis, tu ne devais pas te douter qu'un jour tu chanterais des Toby Fruits dans un film, quand même.
Non, ça, alors, ça, je le confirme. Et non, je ne pensais pas. J'ai jamais pensé à ça, effectivement. Et ça, c'est un vrai cadeau de la part de Fabrice.
On garde son calme, Fabrice, derrière le combo quand c'est comme ça ou pas?
Bah, c'est forcément génial de voir Clovis interpréter quelque chose que j'ai écrit. En plus, je sais que c'est pas du tout son univers. Et justement, c'était pas non plus l'univers du personnage. C'est ça qui était beau, c'était que le personnage de Jean-Claude, à mon avis, c'est pas ce qu'il écoute chez lui. Donc, il faisait déjà un effort de chanter ça pour le travail qu'il fait, donc c'est-à-dire livrer des chansons. Et c'était jouissif de voir quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce mode-là de le faire, en fait. Donc, c'était vraiment super, ouais.
Ça donne quoi de se dire, on est à deux jours de livrer le film au public, que le public va s'en emparer, va s'approprier son œuvre sur laquelle on travaille depuis des années?
Ben, c'est super excitant. Moi, je suis très content de ce que on a tous fait tous ensemble. C'est un travail d'équipe. Je suis content du jeu des comédiens, enfin, de l'ensemble du projet. Le film a l'air de plaire. On a fait pas mal d'avant-premières qui ont été tout le temps époustouflantes. Donc, moi, j'ai envie de dire, j'espère que ça va marcher. En tout cas, c'est le film que je voulais faire et ça reflète vraiment le projet que j'avais en tête depuis le départ.
Pour ceux qui ne le savent pas, faut savoir que tu es l'instigateur de la Minute Vieille, qu'on pouvait voir sur Arte. Donc, est-ce que ça, on aura peut-être la chance de revoir cette Minute Vieille? Est-ce qu'il y aura des nouveaux épisodes? Parce que je crois qu'il y a eu des épisodes qui ont été tournés, qui n'ont pas été diffusés encore.
Oui, tout à fait. La Minute Vieille existe depuis 2012 sur Arte. Et oui, il y aura une saison 8 que je tourne en janvier. Donc, je suis en train de terminer là la préparation. Et Henriette est quelque part un hommage à la Minute Vieille. On peut estimer ça. Elle aurait pu être dans la Minute Vieille.
Bon, et début janvier, on se retrouve, Clovis, pour C'est Magnifique. C'est ton prochain film que tu as réalisé. Un conte, un véritable conte pour toute la famille que tu nous as fait là.
Eh ben, absolument. Et on s'en parlera tranquillement, j'espère. Et j'espère, voilà, pareil, que le film sera touché à l'endroit où j'avais envie qu'il touche, quoi. Mais on se reverra.
Tu reviens? On démarre l'année ensemble?
Avec grand plaisir, oui.
Eh bien, écoute, on démarre 2022 ensemble et puis tu amènes Lilou Fogli avec toi. On aura le grand plaisir de passer un petit moment ensemble pour démarrer 2022. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Clovis.
Merci beaucoup et puis à très vite et puis
l'année prochaine.
Ouais. Et puis en attendant, n'hésitez pas si on chantait, voilà, si vous avez envie de passer un bon moment, je ne crois pas vous envoyer sur un chemin dégueulasse. C'est-à-dire que franchement, même si on peut se dire ah tiens, c'est pas un film pour moi, c'est pas tout ça, je crois qu'on se fait embarquer de manière simple. Faut y aller simplement et je crois qu'on se marre. On entend les salles, ça se marre beaucoup, ça chante, ça tape des mains. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça dans les salles de cinéma pour cause avec cette Covid, tout ça. J'ai le sentiment que c'est une vraie respiration, même à travers le masque.
Puis là, on est en pleine Toussaint. Alors franchement, allez voir un film. On va rire, on va chanter, on va ressentir plein d'émotions. Moi, je dis, il ne faut pas bouder son plaisir. Et je vous garantis, vous avez passé un très bon moment. Merci beaucoup, Fabrice, aussi d'être venu.
Merci à vous. C'est un plaisir de discuter avec vous. Et j'espère que le public aimera le film parce que moi, j'ai adoré le faire.
Les gens, ce qu'ils veulent, c'est bouffer. Toi, ce que tu leur vends, c'est de l'air.
C'est de la merde, ma vie. C'est une super idée de livrer des chansons. La preuve, personne n'avait pensé avant.
Bah, maintenant, je comprends pourquoi.
Bon, allez bosser, là. On a des livraisons à faire.
Tu te prends pour qui?
Je me prends pour celui qui a eu l'idée de cette boîte.
Mais sans le groupe, sans tout ce qu'on a fait, ton idée, elle vaut rien.
Si on chantait, si on chantait.
J'ai un message de la part de votre mari. Et il vous dédie cette chanson.
Madeleine! C'est pas moi, hein. J'ai rien fait. Elle est tombée toute seule.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, ça sera une spéciale. Aline, Valérie Lemercier sera notre invitée exceptionnelle pour nous parler de la sortie du film. Alexia Barlier également viendra nous parler de Sophie Cross. On parlera également du festival du film de Sarlat avec Christelle Oscar, la programmatrice. Bref, plein de surprises vous attendent. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 17 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec Vue d'ici, volets battants, coulissants ou persiennes innovants, fabriqués en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.